Les gangs, en effet, continuent à faire la loi. Ils règnent dans beaucoup de quartiers, des zones qu'on appelle des zones de non-droit. Donc, pour nous, c'est absolument important qu'on puisse restituer un petit peu au pays l'émergence d'état de droit que nous avions eu après ce qui s'était passé en 86. On est en train de détruire tout ce qui faisait un peu la vie du peuple haïtien, le vivre ensemble, la confiance, les rapports de bon voisinage. Et donc, on commence à perdre tout ça, puisque les gens, en allant à l'église, ils savaient que c'était des lieux plus ou moins sûrs, sécurs, et que finalement, même à l'église, on vient kidnapper du monde. Et aussi, ça fait que beaucoup d'églises se ferment. Et à cause de ça, dans la zone de Martissant, la paroisse de Sainte-Bernadette et d'autres zones de non-droit, eh bien, il est presque difficile d'exercer le culte, d'avoir des célébrations, de célébrer l'Eucharistie en toute tranquillité, en toute quiétude. Quand ils vont dans des églises, il faut qu'il y ait pratiquement une entente avec des gens de gang pour pouvoir participer au culte. Donc c'est très révoltant. C'est tout le pays qui vit cette situation.
L'Église en Haïti semble ne plus être respectée aujourd'hui. Peut-on dire qu'elle est délégitimée aujourd'hui?
Je pense que les gens ont tellement perdu confiance et que finalement, certains pensent qu'ils peuvent s'en prendre à l'Église, parce que beaucoup disent aussi que c'est la seule peut-être institution qui reste encore comme rempart. Ceux qui ont en tête de créer une situation complètement chaotique et anarchique, ils veulent s'en prendre à l'Église de manière à ce qu'il n'y ait personne en mesure de réagir. Je pense un petit peu ce qui s'était passé du temps de la Deuxième Guerre mondiale, quand le pasteur Martin Niemöller avait dit, et on était venu prendre un tel, on n'a pas réagi, on est venu prendre après les autres, on n'a pas réagi, et chaque fois qu'on venait prendre quelqu'un, on disait que ce n'était pas nous, et finalement, quand on était venu nous chercher, il n'y avait personne pour crier. Je pense que c'est cette solidarité que l'Église propose au niveau de la population, au niveau de ce petit peuple qui souffre, et de manière à ce qu'on puisse arrêter les mains assassines et qu'on puisse aussi aider la communauté à se retrouver. Depuis quelque temps, certains considéraient que c'était comme une fuite en avant de pouvoir réagir. Or, c'est une légitime défense de pouvoir protéger cette vie que Dieu donne. Et on n'a pas le droit de tomber dans la violence, mais il faut que les gens ils s'organisent pour arrêter cette dérive sociale, cette dérive politique, cette dérive aussi au niveau économique, cette dérive qui ont poussé beaucoup de jeunes à s'armer et à devenir des chefs de gang et à avoir le contrôle de certains quartiers jusqu'à créer des zones complètement de non-droit.
Des accusations sont portées à l'endroit de confessions religieuses, notamment certains membres de l'Église épiscopalienne qui ont été accusés l'année dernière pour leur implication présumée dans le trafic d'armes. Est-ce que cela n'affecte pas l'image de l'Église dans son ensemble?
Oui, je crois que comme je suis le rapport entre les différentes confessions chrétiennes et aussi entre les différentes foi dans le pays, et comme responsable pour la conférence épiscopale du dialogue interreligieux et du dialogue interconfessionnel, on sent que toute l'Église en pâtit, toute l'Église en souffre, et tout le monde, parce que surtout les gens, ils confondent un petit peu les différentes expressions, les différentes confessions. Puisque des prêtres de l'Église anglicane épiscopalienne ont été mêlés à des affaires d'armes, et ça fait que tout le monde a perdu une certaine crédibilité. Quand même, au niveau du dialogue religieux, on a toujours essayé de travailler ensemble, et donc ça aussi affecte un peu le travail, puisque maintenant, tout ce travail qui se faisait entre les différentes confessions pour apporter la paix au niveau de religion pour la paix, maintenant, tout ça est un petit peu bloqué, arrêté, parce que voilà que des personnes qui n'étaient pas les représentants de leur communauté dans le dialogue pour la paix, mais qui sont quand même des responsables. Et maintenant qu'ils sont dans le maquis, ils ont pris la poudre d'escampette parce que, justement, certains membres de cette confession chrétienne ont été identifiés comme des gens qui alimentaient aussi les gangs par des armes à travers un trafiquant international d'armes et que l'on est en train de chercher. Et ces prêtres aussi de cette confession chrétienne, on n'arrive plus à les retrouver. Et je pense que ça a beaucoup affecté et ça a aussi affecté ce que nous appelons la liberté religieuse, puisque maintenant les gens, ils identifient tout le monde et ils pensent que dès qu'on voit un prêtre, et même si c'est un prêtre catholique, eux, ils ne font pas de différence. Donc, ils ne font pas de différence entre prêtre catholique, prêtre anglican, prêtre, disons, épiscopalien. Dès qu'ils voient un prêtre, ils commencent par un petit peu. Le prêtre doit prouver qu'il est vraiment un prêtre catholique et qu'il est lui-même quelqu'un de crédible, de digne de foi, pour convaincre un peu, pour écouter, partager, discuter avec les gens et dialoguer. Et aussi, nous condamnons ce qui s'est passé quand des prêtres d'autres expressions chrétiennes ou religieuses se sont mis à faire des histoires pareilles. Mais en même temps, nous demandons aux gens de ne pas confondre l'Église catholique, même si c'est l'Église universelle qui embrasse tous ses fils, toutes ses filles, mais l'Église catholique, l'expression de l'Église latine reste l'expression de l'Église latine comme Église catholique universelle. Donc, pour nous, il n'y a pas à faire cette confusion. Et quand on parle de ces prêtres qui ont été impliqués, ce ne sont pas des prêtres catholiques, mais en même temps, et c'est quand même des frères qui n'ont pas pu saisir les nuances et qui peut-être se sont laissés entraîner dans des histoires de gain facile. Et je crois que c'est là aussi un défi pour toute l'Église en général, l'affaire de vouloir gagner et de l'argent n'importe comment et d'abandonner un peuple en souffrance alors qu'on aurait dû plutôt se mettre ensemble pour aider ce peuple à vivre, à faire l'expérience de la résurrection de notre Seigneur.
Quelle option s'offre à l'Église pour juguler le problème?
Pour nous, les options qui sortent, c'est plutôt porter les gens au dialogue et de manière à ce que, même si l'Église ne prend pas la tête du dialogue, l'Église peut être témoin, accompagnateur, observateur, mais porter les gens au dialogue, puisque quand les frères n'arrivent plus à se parler, à discuter, à chercher une solution commune, à créer un vivre ensemble commun, eh bien, on est presque sur le bord des attaques parfois génocidaires. Donc, je pense que une première solution de la part de l'Église, c'est d'encourager ce type de dialogue à tous les niveaux. Et je sais aussi que déjà au niveau de l'annonciature apostolique, le nonce est en train de faire beaucoup d'efforts et de notre côté aussi, les acteurs que nous rencontrons, nous leur disons qu'il faut aller en ce sens. La deuxième chose, c'est que nous autres, nous essayons de dire à la communauté internationale qu'il faut arriver à faire des choses concrètes. On ne peut pas toujours prôner qu'on va aider Haïti, mais au niveau concret, on ne voit pas quel signe on est en train de donner. On a des églises sœurs qui nous soutiennent. Par exemple, quand on prend certaines communautés catholiques, même des États-Unis et aussi du Canada, et dans certains pays, il y a cette aide qui est là, qui soutient. Par exemple, c'est aussi l'Église du Canada qui a aidé le gouvernement canadien, même si c'est un pays laïque, mais qui a quand même le dialogue, à soutenir Haïti. Et le Canada vient de donner 100 millions de dollars américains pour accompagner la police et renforcer la capacité de cette institution de manière à rétablir l'ordre et la discipline. Donc, nous encourageons la communauté nationale à vraiment accompagner, à être présent, à aider la police nationale pour accomplir sa mission et en même temps pour pouvoir sauver la vie de beaucoup de gens. Parce que chaque jour, avec tellement de morts, de gens kidnappés, de femmes qui ont subi parfois de viols, eh bien, c'est la dignité de la personne humaine qui est touchée. Donc l'Église prône et demande à la communauté internationale, comme a crié le pape, de pouvoir prendre tous les moyens pour aider Haïti à sortir de cette situation. Et seul, je ne pense pas que nous puissions le faire. On a besoin du soutien, d'accompagnement. On a besoin d'être soutenu dans cette lutte pour la vie, dans cette lutte pour donner une nouvelle espérance, un nouvel avenir à ce peuple. Donc l'Église est là, on n'a pas toutes les solutions, nous. On ne prétend pas non plus dicter des lois ou donner des leçons à d'autres, mais ce que l'Église veut, c'est d'être là, d'accompagner, d'aider et de faire des plaidoyers pour que la communauté internationale puisse être à côté de Haïti, pour que le pays ne soit pas seulement une espèce de plaie, de blessure aux côtés de l'humanité et aux côtés du monde.